rayon de soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Bonjour à tous, bienvenue dans un rayon de soleil. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité. Aujourd'hui, on a décidé de se cultiver et de lire Pierre Kropotkin, l'anarchie, sa philosophie, son idéal. Donc, nous allons en profiter et ça durera un peu plus qu'une émission. Et nous couperons ces moments de lecture par des morceaux musicaux. Et puis, juste pour vous dire, on vous emmènera un peu écouter du jazz en fin d'émission dans la belle plage de Cassis, avec la falaise en arrière-fond. C'était en août 2014 et c'est du bon jazz. Restez branchés. Voilà. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'écouter les archives, vous pouvez les trouver soit sur le site de la radio, www.radiolibertaire.org, soit sur le site de l'émission Rayon de Soleil, http://rl.mediterranee.free.fr. Bonne écoute à tous et à tous.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Citoyennes et citoyens, ce n'est pas sans une certaine hésitation que je me suis décidé à prendre pour sujet de cette conférence la philosophie et l'idéal de l'anarchie. Ceux qui sont persuadés que l'anarchie n'est qu'un ramassis de visions sur l'avenir et qu'une poussée inconsciente vers la destruction de toute civilisation actuelle sont encore bien nombreux. Et pour déblayer le terrain des préjugés de notre éducation, il faudrait peut-être entrer dans des développements que l'on aborde difficilement dans une conférence. Il y a 2 ou 3 années seulement, la grande presse parisienne ne soutenait-elle pas que la seule philosophie de l'anarchiste, c'est la destruction, son seul argument la violence? Cependant, on a tant parlé récemment des anarchistes qu'une partie du public a fini par lire et discuter nos doctrines. Quelquefois même, on s'est donné la peine de la réflexion, et en ce moment, il y a du moins un point de gagné. On admet volontiers que l'anarchiste possède un idéal. On le trouve même trop beau, trop élevé pour une société qui n'est pas composée que d'hommes d'élite. Mais n'est-il pas trop prétentieux de ma part de parler d'une philosophie, là où, au dire de nos critiques, il n'y a que des visions pâles d'un avenir lointain? L'anarchie peut-elle prétendre à posséder une philosophie lorsqu'on refuse d'en reconnaître une au socialisme? C'est à quoi je vais essayer de répondre, en y mettant toute la précision et toute la clarté possible, et en vous priant de m'excuser d'avance si je répète devant vous un exemple ou deux que j'ai déjà mentionné dans une conférence faite à Londres, et qui, ce me semble, permettent de mieux saisir ce qu'il faut entendre par « philosophie de l'anarchie ». Vous ne m'en voudrez certainement pas si je prends tout d'abord quelques exemples élémentaires empruntés aux sciences naturelles. Non pour en déduire nos idées sociales, loin de là, mais simplement pour mieux faire ressortir certains rapports qu'il est plus facile de saisir dans les phénomènes constatés par les sciences exactes qu'en cherchant ces exemples seulement dans les faits si complexes des sociétés humaines. Eh bien, ce qui nous frappe surtout dans les sciences exactes en ce moment, c'est la profonde modification qu'elles subissent depuis quelques années dans toute leur façon de concevoir les faits de l'univers et de les interpréter. Il y eut un temps, vous le savez, où l'homme s'imaginait la Terre placée au centre de l'univers. Le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles semblaient rouler autour de notre globe, et pour l'homme, ce globe, habité par lui, représentait le centre de la création. Lui-même, être supérieur sur sa planète, était l'élu du Créateur. Le Soleil, la Lune, les étoiles n'étaient faits que pour lui. Vers lui était portée toute l'attention d'un Dieu qui veillait sur le moindre de ses actes, arrêtait pour lui le Soleil dans sa marche, voguait dans les nuages, lançant ses ondées ou ses foudres sur les champs et sur les villes pour récompenser les vertus ou châtier les crimes des habitants. Pendant des milliers d'années, l'homme a ainsi conçu l'univers. Vous savez cependant quel immense changement se produisit au XVIe siècle dans toutes les conceptions de l'homme lorsqu'il lui fut démontré que, loin d'être le centre de l'univers, la Terre n'était qu'un grain de sable dans le système solaire, rien qu'une boule beaucoup plus petite que d'autres planètes, que le Soleil lui-même, cet astre immense en comparaison de notre petite Terre, n'était qu'une étoile parmi tant d'autres étoiles sans nombre que nous voyons briller dans le ciel, fourmiller dans la Voie lactée. Combien l'homme parut petit devant cette immensité sans bornes, combien ridicules semblèrent ses prétentions. Toute la philosophie de l'époque, toutes les conceptions sociales et religieuses se ressentirent de cette transformation dans les idées cosmogoniques. C'est de cette époque seulement que datent les sciences naturelles, dont le développement actuel nous rend si fiers. Mais un changement, encore plus profond et d'une portée beaucoup plus grande, est en train de s'opérer dans l'ensemble des sciences, et l'anarchie, vous allez le voir, n'est qu'une des manifestations multiples de cette évolution. Elle n'est qu'une des branches de la philosophie nouvelle qui s'annonce. Prenez n'importe quel ouvrage d'astronomie de la fin du siècle passé ou du commencement d'une autre. Vous n'y trouverez plus, cela va sans dire, notre petite planète au centre de l'univers. Mais vous y rencontrerez à chaque pas l'idée d'un astre central immense, le Soleil, qui, par son attraction puissante, gouverne notre monde planétaire. De cet astre central rayonne une force qui guide la marche des satellites et maintient l'harmonie du système. Issue d'une agglomération centrale, les planètes ne sont pour ainsi dire que des bourgeons. À cette agglomération, elles doivent leur naissance. À l'astre radiant qui la représente encore, elles doivent tout. Le rythme de leurs mouvements, leurs orbites savamment espacées, la vie qui les anime et orne leur surface. Et lorsque des perturbations quelconques viennent troubler leur marche et les font dévier de leurs orbites, l'astre central rétablit l'ordre dans le système, il en assure et perpétue l'existence. Cette conception s'en va aussi comme s'en est allé l'autre. Après avoir porté toute son attention sur le Soleil et les grandes planètes, l'astronome se met à l'étude des infiniment petits qui peuplent l'univers. Et il découvre que les espaces interplanétaires et interstellaires sont peuplés et sillonnés dans toutes les directions imaginables de petits essaims de matière, invisibles, infimes quand on les prend séparément, mais tout puissants par leur nombre. Parmi ces masses, les unes, comme ce bolide qui l'autre jour semait la terreur en Espagne, sont encore assez grandes. D'autres pèsent à peine quelques grammes ou centigrammes, tandis qu'autour d'elles voguent encore des poussières, presque microscopique, remplissant les espaces. Et c'est à ces poussières, à ces infiniment petits qui sillonnent l'étendue dans tous les sens avec des vitesses vertigineuses, qui s'entrechoquent, s'agglomèrent et se désintègrent, partout et toujours, c'est à eux, dis-je, que l'astronome demande aujourd'hui d'expliquer et l'origine de notre système, soleil, planètes et satellites, et les mouvements qui animent ces différentes parties, et l'harmonie de leur ensemble. Encore un pas, et bientôt, l'attraction universelle elle-même ne sera plus qu'une résultante de tous les mouvements, désordonnés et incohérents, de ces infiniment petits, des oscillations d'atomes qui se produisent dans toutes les directions possibles. Ainsi, le centre, l'origine de la force, transporté une fois de la Terre au Soleil, se trouve éparpillé maintenant, disséminé. Il est partout et nulle part. Avec l'astronome, on s'aperçoit que les systèmes solaires ne sont que l'œuvre des infiniment petits, que la force qu'on croyait gouverner le système n'est elle-même, peut-être, que la résultante des chocs de ces infiniment petits, que l'harmonie des systèmes stellaires n'est harmonie que parce qu'elle est une adaptation, une résultante de tous ces mouvements innombrables, s'additionnant, se complétant, s'équilibrant les uns les autres. Tout l'aspect de l'univers change avec cette nouvelle conception. L'idée de force régissant le monde, de loi préétablie, d'harmonie préconçue, disparaît, pour faire place à cette harmonie que Charles Fourier avait entrevue un jour, et qui n'est que la résultante des essaims innombrables de matière, marchant chacun devant soi et se tenant mutuellement en équilibre.
Comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les braises, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui s'éteint, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, mais qui tient pas, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi, moi contre ton épaule, je repars à la lutte, contre les gravités qui nous mènent à la chute. Faire du bruit encore, à réveiller les morts, pour redonner éclat à l'amoureux dans toi, pour rendre au crépuscule la beauté des aurores. Dis-moi qu'on brûle encore, dis-moi que brûle encore cet espoir que tu tiens, parce que tu n'en sais rien de la fougue et du feu que je vois dans tes yeux. Jeunesse, lève-toi, quand tu vois comme on pleure à chaque rue sa peine, comment on nous écarte, perfusion dans la veine. À l'ombre du faisceau, mon vieux, tu m'auras plus. Ami, dis quand viendra la crue, contre-courant toujours sont les contre-cultures, au gré des émissions, leur gueule de vie d'ordure. Puisque s'en est sonné la mort du politique, l'heure est aux rêves utopiques, pour faire nos ADN un peu plus équitables, pour faire de la poussière un peu plus que du sable. Dans ce triste pays, tu sais, un jour ou l'autre, faudra tuer le père, faire entendre ta voix. Jeunesse, lève-toi, au clair de lune indien, toujours surfer la vague, à l'âme au creux des reins, faut aiguiser la lame. Puisqu'ici il n'y a qu'au combat qu'on est libre, de ton triste sommeil, je t'en prie, libère-toi. Puisqu'ici il faut faire des bilans et du chiffre, sont nos amours toujours au bord du précipice. N'entends-tu pas ce soir chanter le chant des morts? Ne vois-tu pas le ciel à la portée des doigts? Jeunesse, lève-toi, comme un éclat de rire vient consoler tristesse, comme un souffle à venir vient raviver les princes, comme un parfum de soufre qui fait naître la flamme, quand plongé dans le gouffre on sait plus où est l'âme. Jeunesse, lève-toi contre la vie qui va, qui vient, puis qui nous part, contre l'amour qu'on prend, qu'on tient, puis qu'on enterre, contre la trace qui s'efface derrière de soi. Jeunesse, lève-toi, jeunesse, lève-toi.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkine. Si ce n'était d'ailleurs que l'astronomie qui subit ce changement. Mais non, la même modification se produit dans la philosophie de toutes les sciences sans exception. Celles qui traitent de la nature comme celles qui traitent des rapports humains. Dans les sciences physiques, les entités, chaleur, magnétisme, électricité, disparaissent. Quand un physicien parle aujourd'hui d'un corps échauffé ou électrisé, il ne voit plus une masse inanimée à laquelle viendrait s'ajouter une force inconnue. Il s'efforce de reconnaître dans ce corps, et dans l'espace qui l'entoure, la marche, les vibrations des atomes infiniment petits qui se dirigent dans tous les sens, vibrent, se meuvent, vivent, et par leurs vibrations, leur choc, leur vie, produisent les phénomènes de chaleur, de lumière, de magnétisme, ou d'électricité. Dans les sciences qui traitent de la vie organique, la notion de l'espèce et de ses variations s'efface, et la notion de l'individu s'y substitue. Le botaniste et le zoologiste étudient l'individu, sa vie, son adaptation au milieu. Des changements qui se produisent dans lui, sous l'action de la sécheresse ou de l'humidité, de la chaleur ou du froid, de l'abondance ou de la pauvreté de la nourriture, de sa plus ou moins sensibilité aux actions du milieu extérieur, naîtront les espèces, et les variations de l'espèce ne sont plus pour le biologiste que des résultantes, des sommes de variations qui se sont produites dans chaque individu séparément. L'espèce sera ce que seront les individus, subissant chacun les mêmes influences sans nombre des milieux dans lesquels ils vivent, et auxquels ils répondent chacun à leur façon. Et quand le physiologue parle de la vie d'une plante ou d'un animal, il y voit plutôt une agglomération, une colonie de millions d'individus séparés, qu'une personnalité unie et indivisible. Il vous parle d'une fédération d'organes digestifs, sensuels, nerveux, etc. Tous très intimement liés entre eux, tous subissant le contre-coup du bien-être ou du malaise de chacun, mais vivant chacun de sa vie propre. Chaque organe, chaque portion d'organe, à son tour, est composée de cellules indépendantes qui s'associent pour lutter contre les conditions défavorables à leur existence. L'individu est tout un monde de fédération, il est tout un cosmos à lui seul. Et dans ce monde, le physiologue voit les cellules autonomes du sang, des tissus, des centres nerveux. Il reconnaît les milliards de corpuscules blancs, les phagocytes, qui se portent aux endroits du corps infectés par les microbes pour livrer bataille aux envahisseurs. Plus que cela, dans chaque cellule microscopique, il découvre aujourd'hui un monde d'éléments autonomes, dont chacun vit de sa vie propre, recherche par lui-même le bien-être et l'atteint par le groupement, l'association avec d'autres que lui. Bref, chaque individu est un cosmos d'organes, chaque organe est un cosmos de cellules, chaque cellule est un cosmos d'infiniment petit. Et dans ce monde complexe, le bien-être de l'ensemble dépend entièrement de la somme de bien-être dont jouit chacune des moindres parcelles microscopiques de la matière organisée. Toute une révolution se produit ainsi dans la philosophie de la vie. Mais c'est surtout en psychologie que cette révolution amène aux conséquences de la plus haute portée. Tout récemment encore, le psychologue parlait de l'homme comme d'un être entier, un et indivisible. Resté fidèle à la tradition religieuse, il aimait à classer les hommes en bons et en mauvais, en intelligents et en stupides, en égoïstes et en altruistes. Même chez les matérialistes du XVIIIe siècle, l'idée d'une âme, d'une entité indivisible, continuait à se maintenir. Mais que penserait-on aujourd'hui d'un psychologue qui parlerait encore ce langage ? Le psychologue de nos jours voit dans l'homme une multitude de facultés séparées, de tendances autonomes, égales entre elles, fonctionnant chacune indépendamment, s'équilibrant, se contredisant continuellement. Pris dans son ensemble, l'homme n'est plus pour lui qu'une résultante, toujours variable, de toutes ses facultés diverses, de toutes ses tendances autonomes, des cellules du cerveau et des centres nerveux. Toutes sont reliées entre elles au point de réagir chacune sur toutes les autres, mais elles vivent de leur propre vie, sans être subordonnées à un organe central, l'âme. Sans que j'entre dans de plus amples détails, vous voyez ainsi qu'une modification profonde se produit en ce moment dans l'ensemble des sciences naturelles. Non pas qu'elles poussent leur analyse jusqu'à des détails que l'on aurait d'abord négligés, non. Les faits ne sont point nouveaux, mais la façon de les concevoir est en train d'évoluer. Et s'il fallait caractériser cette tendance en peu de mots, on pourrait dire que, si autrefois la science s'attachait à étudier les grands résultats et les grandes sommes, les intégrales, dirait le mathématicien, aujourd'hui, elle s'attache surtout à étudier les infiniment petits, les individus dont se composent ces sommes et dont elle a fini par reconnaître l'indépendance et l'individualité en même temps que leur agrégation intime. Quant à l'harmonie que l'esprit humain découvre dans la nature et qui n'est au fond que la constatation d'une certaine stabilité des phénomènes, le savant moderne la reconnaît sans doute aujourd'hui plus que jamais. Mais il ne cherche pas à l'expliquer par l'action des lois conçues selon un certain plan, préétabli par une volonté intelligente. Ce que l'on appelait « loi naturelle » n'est plus qu'un rapprochement entre certains phénomènes, entrevus par nous, et chaque loi naturelle prend un caractère conditionnel de causalité, c'est-à-dire, si tel phénomène se produit dans de telles conditions, tel autre phénomène suivra. Point de loi placé en dehors du phénomène. Chaque phénomène gouverne celui qui lui succède, non la loi. Rien de préconçu dans ce que nous appelons l'harmonie de la nature. Le hasard des chocs et des rencontres a suffi pour l'établir. Tel phénomène durera des siècles parce que l'adaptation, l'équilibre qu'il représente, a pris des siècles à s'établir. Tandis que tel autre ne durera qu'un instant, si cette forme d'équilibre momentané est née en un instant. Si les planètes de notre système solaire ne s'entrechoquent pas et ne s'entre-détruisent pas chaque jour, si elles durent des millions de siècles, c'est parce qu'elles représentent un équilibre qui a pris des millions de siècles pour s'établir, comme résultante des millions de forces aveugles. Si les continents ne sont pas continuellement détruits par des secousses volcaniques, c'est qu'ils ont pris des milliers et des milliers de siècles pour être édifiés molécule à molécule et prendre leurs formes actuelles. Mais l'éclair ne durera qu'un instant, parce qu'il représente une rupture momentanée de l'équilibre, une redistribution subite des forces. L'harmonie apparaît ainsi comme l'équilibre temporaire établi entre toutes les forces, une adaptation provisoire, et cet équilibre ne durera qu'à une condition, celle de se modifier continuellement, de représenter à chaque instant la résultante de toutes les actions contraires. Qu'une seule de ces forces soit gênée pour quelque temps dans son action, et l'harmonie disparaîtra. La force accumulera son effet, elle doit se faire jour, elle doit exercer son action, et si d'autres forces l'empêchent de se manifester, Elle ne s'anéantira pas pour cela, mais finira par rompre l'équilibre, par briser l'harmonie, pour retrouver une nouvelle position d'équilibre et travailler à une nouvelle adaptation. Telle l'éruption d'un volcan dont la force emprisonnée finit par briser les laves qui l'empêchaient de vomir gaz, lave et cendres incandescentes. Telles les révolutions.
Sunday morning, I wake up, you're beside me, breathing so loud. Empty and so flat, the world around me is too large. Oh. And I know that I'm slow in the morning as I fall into a hole without an end until suddenly I look at you and all the mirrors vanish. From my mind. Oh, 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 you're mine.
Lola March, Your Mine sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans publicité.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Une transformation analogue se produit en même temps dans les sciences qui traitent de l'homme. Aussi voyons-nous que l'histoire, après avoir été l'histoire des royaumes, tend à devenir l'histoire des peuples, puis l'étude des individus. L'historien veut savoir comment les membres dont se composait cette nation vivaient à telle époque, quelles étaient leurs croyances, leurs moyens d'existence, quel idéal social se dessinait devant eux, et quels moyens ils possédaient pour cheminer vers cet idéal. Et par l'action de toutes ces forces, jadis négligées, il interprétera les grands phénomènes historiques. De même, le savant qui étudie la jurisprudence ne se contente plus d'étudier tel ou tel code. Comme l'ethnologue, il veut connaître la genèse des institutions qui se succèdent. Il suit leur évolution à travers les âges, et, dans cette étude, il s'applique bien moins à la loi écrite qu'aux usages locaux, aux droits coutumiers, dans lesquels le génie constructif des masses inconnues a trouvé son expression à toute époque. Une science toute nouvelle s'élabore dans cette direction et elle promet de bouleverser les conceptions établies que nous avons apprises à l'école, arrivant à interpréter l'histoire de la même manière que les sciences naturelles interprètent les phénomènes de la nature. Enfin, l'économie politique, qui fut à ses débuts une étude sur la richesse des nations, devient aujourd'hui une étude sur la richesse des individus. Elle tient moins à savoir si telle nation fait ou non gros commerce extérieur. Elle veut s'assurer que le pain ne manque pas dans la chaumière du paysan et de l'ouvrier. Elle frappe à toutes les portes, à celle du palais comme à celle du taudis, et demande aux riches comme aux pauvres « Jusqu'à quel point vos besoins de nécessaire et de luxe sont-ils satisfaits ?» Et comme elle constate que les besoins les plus pressants de bien-être ne le sont pas pour les 9/10 de l'humanité, elle se pose la question que se poserait un physiologiste devant une plante ou un animal. Quels sont les moyens de satisfaire aux besoins de tous avec la moindre perte de force? Comment une société peut-elle garantir à chacun, et conséquemment à tous, la plus grande somme de satisfaction et de bonheur? C'est dans cette direction que la science économique se transforme, et après avoir été si longtemps une simple constatation de phénomènes interprétés dans l'intérêt des riches minorités, elle tend à devenir, ou plutôt elle élabore les éléments pour devenir, une science au vrai sens du mot, une physiologie des sociétés humaines. En même temps qu'une nouvelle vue d'ensemble, une nouvelle philosophie s'élabore ainsi dans les sciences. Nous voyons aussi s'élaborer une conception de la société tout à fait différente de celles qui ont prévalu jusqu'à nos jours. Sous le nom d'anarchie, surgit une interprétation nouvelle de la vie passée et présente des sociétés, en même temps qu'une prévision concernant leur avenir, conçue l'une et l'autre dans le même esprit que la conception de la nature et dont je viens de parler. L'anarchie se présente ainsi comme une partie intégrante de la philosophie nouvelle, et c'est pourquoi l'anarchiste se trouve en contact sur un si grand nombre de points avec les plus grands penseurs et poètes de l'époque actuelle. En effet, il est certain qu'à mesure que le cerveau humain s'affranchit des idées qui lui furent inculquées par les minorités de prêtres, de chefs militaires, de juges tenant à asseoir leur domination et de savants payés pour la perpétuer, une conception de la société surgit, dans laquelle il ne reste plus de place pour ces minorités dominatrices. Cette société, rentrant en possession de tout le capital social accumulé par le travail des générations précédentes, s'organise pour mettre ce capital à profit dans l'intérêt de tous et se constitue sans refaire le pouvoir des minorités. Elle comprend dans son sein une variété infinie de capacités, de tempéraments et d'énergie individuelle. Elle n'exclut personne. Elle appelle même la lutte le conflit, parce qu'elle sait que les époques de conflit, librement débattues, sans que le poids d'une autorité constituée fût jeté d'un côté de la balance, furent les époques du plus grand développement du génie humain. Reconnaissant que tous ses membres ont, de fait, des droits égaux à tous les trésors accumulés par le passé, elle ne connaît plus la division entre exploités et exploiteurs, entre gouvernés et gouvernants, entre dominés et dominateurs. Et elle cherche à établir une certaine compatibilité harmonique dans son sein, non en assujettissant tous ses membres à une autorité qui, par fiction, serait censée représenter la société, non en cherchant à établir l'uniformité, mais en appelant tous les hommes au libre développement, à la libre initiative, à la libre action et à la libre association. Elle cherche le plus complet développement de l'individualité, combiné avec le plus haut développement de l'association volontaire sous tous ses aspects, à tous les degrés possibles, pour tous les buts imaginables. Association toujours changeante, portant en elle-même les éléments de sa durée et revêtant les formes qui, à chaque moment, répondent le mieux aux aspirations multiples de tous. Une société enfin, à laquelle les formes préétablies, cristallisées par la loi, répugnent, mais qui cherche l'harmonie dans l'équilibre, toujours changeant et fugitif, entre les multitudes de forces variées et d'influences de toute nature, lesquelles suivent leur cours, et, précisément grâce à la liberté de se produire au grand jour et de se contrebalancer, peuvent provoquer les énergies qui leur sont favorables quand elles marchent vers le progrès. Cette conception et cet idéal de la société ne sont certainement pas nouveaux. Au contraire, quand nous analysons l'histoire des institutions populaires, le clan, la commune, le village, l'union de métiers, la guilde et même la commune urbaine du Moyen-Âge à ses premiers débuts, nous retrouvons la même tendance populaire à constituer la société dans cette idée. Tendance qui fut toujours entravée, d'ailleurs, par les minorités dominatrices. Tous les mouvements populaires portaient plus ou moins ce cachet, et chez les anabaptistes et leurs précurseurs, nous trouvons les mêmes idées nettement exprimées, malgré le langage religieux dont on se servait alors. Malheureusement, jusqu'à la fin du siècle passé, cet idéal fut toujours entaché d'un esprit théocratique, et ce n'est que de nos jours qu'il se présente débarrassé des langes religieux, comme une notion de la société déduite de l'observation des phénomènes sociaux. C'est seulement aujourd'hui que l'idéal de société où chacun ne se gouverne que par sa propre volonté, laquelle est évidemment un résultat des influences sociales que chacun subit, s'affirme sous son côté économique, politique et moral à la fois, et qu'il se présente appuyé sur la nécessité du communisme, imposé à nos sociétés modernes par le caractère éminemment social de notre production actuelle. En effet, nous savons fort bien aujourd'hui qu'il est futile de parler de liberté tant que l'esclave économique existe. Ne parle pas de liberté, la pauvreté, c'est l'esclavage, n'est plus une vaine formule. Elle a pénétré dans les idées des grandes masses ouvrières, elle s'infiltre dans toute la littérature de l'époque, elle entraîne ceux-là même qui vivent de la pauvreté des autres et leur ôte l'arrogance avec laquelle ils affirmaient jadis leur droit à l'exploitation. Que la forme actuelle d'appropriation du capital social ne peut plus durer, là-dessus, des millions de socialistes dans les deux mondes sont déjà d'accord. Les capitalistes eux-mêmes sentent qu'elle s'en va et n'osent plus la défendre avec l'aplomb d'autrefois. Leur seule défense se réduit au fond à dire « vous n'avez rien inventé de mieux ». Quant à nier les conséquences funestes des formes actuelles de la propriété, ils ne le peuvent pas. Ils pratiquent ce droit tant qu'on leur laisse encore la latitude, mais sans chercher à l'asseoir sur une idée. Cela se comprend. Voyez par exemple cette ville de Paris, création de tant de siècles, produit du génie de toute une nation, résultant du labeur de 20 ou 30 générations. Comment soutenir devant l'habitant de cette ville, qui travaille chaque jour à l'embellir, à l'assainir, à l'alimenter, à la pourvoir de chefs-d'œuvre du génie humain, à en faire un centre de pensée et d'art, comment soutenir devant lui, qui crée tout cela, que les palais qui ornent les rues de Paris appartiennent en pleine justice à ceux qui en sont aujourd'hui les propriétaires légaux, alors que nous tous en faisons la valeur, puisque sans nous, elle serait nulle. Pareille fiction peut se maintenir pendant quelque temps par l'adresse des éducateurs du peuple. Les gros bataillons ouvriers peuvent même ne pas y réfléchir. Mais du moment qu'une minorité d'hommes pensants agite cette question et la soumet à tous, il ne peut plus y avoir de doute sur la réponse. L'esprit populaire répond « c'est par la spoliation qu'ils détiennent les richesses ». De même, comment faire croire aux paysans que cette terre seigneuriale ou bourgeoise appartient aux propriétaires en droit légitime, lorsque le paysan nous dira l'histoire de chaque lopin de terre à 10 lieues à la ronde ? Comment lui faire croire surtout qu'il soit utile pour la nation que monsieur un tel garde cette terre pour son parc, alors que tant de paysans des alentours ne demandent qu'à la cultiver? Comment faire croire enfin à l'ouvrier de telle usine ou au mineur de telle mine que l'usine et la mine appartiennent équitablement à leurs maîtres actuels, alors que l'ouvrier et même le mineur commencent à voir clair dans les Panamas, les pots de vin, les chemins de fer français ou turcs, le pillage de l'État et le vol légal sur lesquels se bâtit la grande propriété commerciale ou industrielle. Au fait, les masses ont-elles jamais cru aux sophismes enseignés par les économistes, plutôt pour confirmer les exploiteurs dans leurs droits que pour convertir les exploités ? Écrasés par la misère, ne trouvant aucun appui dans les classes aisées, le paysan et l'ouvrier ont simplement laissé faire, quitte à affirmer leurs droits de temps à autre par des jacqueries. Et si tel ouvrier des villes a pu croire un moment que le jour arriverait où l'appropriation personnelle du capital profiterait à tous, en constituant un fonds de richesse au partage desquels tout le monde serait appelé, cette illusion s'en va aussi comme d'autres. L'ouvrier s'aperçoit que déshérité il fut, déshérité il reste, que pour arracher à ses maîtres la moindre partie des richesses constituées par ses efforts, il doit recourir à la révolte ou à la grève, c'est-à-dire s'imposer les transes de la faim et affronter l'emprisonnement, si ce n'est s'exposer aux fusillades impériales, royales ou républicaines. Mais un mal autrement plus profond du système actuel s'affirme de plus en plus. C'est que dans l'ordre d'appropriation privée, tout ce qui sert à vivre et à produire, le sol, l'habitation, la nourriture et l'instrument de travail, une fois passé aux mains de quelques-uns, ceci empêche continuellement de produire ce qui est nécessaire pour donner le bien-être à chacun. Le travailleur sent vaguement que notre puissance technique actuelle pourrait donner à tous un large bien-être, mais il perçoit aussi comment le système capitaliste et l'État empêchent dans toutes les directions de conquérir ce bien-être. Loin de produire plus qu'il ne faut pour assurer la richesse matérielle, nous ne produisons pas assez. Le paysan, quand il convoite les parcs et les jardins des flibustiers de l'industrie et des panamistes, autour desquels le juge et le gendarme montent la garde, comprend cela, puisqu'il rêve de les couvrir de récoltes qui auraient, il le sait, porté l'abondance dans les villages où l'on se nourrit de pain à peine arrosé de piquettes. Le mineur, lorsque 3 jours par semaine il est forcé de se promener les bras ballants, pense aux tonnes de charbon qu'il pourrait extraire et dont on manque partout dans les ménages pauvres. Le travailleur, lorsque son usine chôme et qu'il court les rues à la recherche de travail, voit les maçons chômer comme lui, alors qu'un 1/5 de la population de Paris habite des taudis malsains. Il voit les cordonniers se plaindre de manque d'ouvrage alors que tant de gens manquent de chaussures et ainsi de suite. En effet, si certains économistes se plaisent à faire des traités sur la surproduction et s'ils expliquent chaque crise industrielle par cette cause, ils seraient cependant bien embarrassés si on les sommait de nommer un seul article que la France produise en quantité plus grande qu'il n'en faut pour satisfaire les besoins de toute la population. Ce n'est certainement pas le blé, le pays est forcé d'en importer. Ce n'est pas non plus le vin. Les paysans n'en boivent que bien peu et lui substituent la piquette. Et la population des villes doit se satisfaire de produits frelatés. Ce ne sont évidemment pas les maisons. Des millions vivent encore dans des chaumières à 1 ou 2 ouvertures. Ce ne sont même pas les livres, bons ou mauvais, qui sont encore un objet de luxe pour le village. Un seul article est produit en quantité plus grande qu'il n'en faut, c'est le budgétivore. Mais cette marchandise ne figure pas dans les cours d'économie politique, alors qu'elle en a bien les attributs, puisqu'elle se vend toujours au plus donnant. Ce que l'économiste appelle surproduction n'est ainsi qu'une production qui dépasse la force d'achat des travailleurs, réduite à la pauvreté par le capital et l'État. Or, cette sorte de surproduction reste fatalement la caractéristique de la production capitaliste actuelle, puisque, Proudhon l'avait déjà bien dit, les travailleurs ne peuvent pas acheter avec leur salaire ce qu'ils ont produit et grassement nourrir en même temps les nuées d'oisifs qui vivent sur leurs épaules. L'essence même du système économique actuel est que l'ouvrier ne pourra jamais jouir du bien-être qu'il aura produit et que le nombre de ceux qui vivent à ses dépens ira toujours en augmentant. Plus un pays est avancé en industrie, plus ce nombre est grand. Forcément encore, l'industrie est dirigée, et devra être dirigée, non pas vers ce qui manque pour satisfaire aux besoins de tous, mais vers ce qui, à un moment donné, rapporte les plus gros bénéfices temporaires à quelques-uns. De toute nécessité, l'abondance des uns sera basée sur la pauvreté des autres, et le malaise du grand nombre devra être maintenu à tout prix afin qu'il y ait des bras qui se vendent pour une partie seulement de ce qu'ils sont capables de produire. Sans cela, point d'accumulation privée du capital. Ces traits caractéristiques de notre système économique en font l'essence même. Sans eux, il ne peut exister, car qui donc vendrait sa force de travail pour moins que ce qu'elle est capable de donner s'il n'y était forcé par la menace de la faim? Et ces traits essentiels du système en sont aussi la plus écrasante condamnation.
Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Paris sur 89.4 et en DAB+, c'est-à-dire radio numérique terrestre, et partout dans le monde sur internet sur www.radio-libertaire.org. Vous écoutez l'émission Un rayon de soleil.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Tant que l'Angleterre et la France furent les pionniers de l'industrie, au sein des nations arriérées dans le développement technique, et tant qu'elles purent vendre à leurs voisins leur laine, leur cotonnade et leur soie, leur fer et leurs machines, ainsi que toute une série d'objets de luxe à des prix qui leur permettaient de s'enrichir aux dépens de leur clientèle, le travailleur pouvait être maintenu dans l'espoir que lui aussi serait appelé à s'approprier une part de plus en plus large du butin. Mais ces conditions disparaissent. Les nations arriérées, il y a 30 ans, sont devenues à leur tour de grands producteurs de cotonnades, de laine, de soie, de machines et d'objets de luxe. Dans certaines branches de l'industrie, elles ont pris les devants. Et sans parler du commerce lointain où elles combattent leurs sœurs aînées, elles viennent déjà leur faire concurrence sur leur propre marché. En peu d'années, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, les États-Unis, la Russie et le Japon sont devenus des pays de grande industrie. Le Mexique, les Indes, voire même la Serbie, emboîtent le pas, et que sera-ce quand le Chinois commencera à imiter le Japonais en fabriquant aussi pour le marché universel? Il en résulte que les crises industrielles dont la fréquence et la durée vont en augmentant sont passées dans maintes industries à l'état chronique. De même, la guerre pour les marchés en Orient et en Afrique est depuis plusieurs années à l'ordre du jour. Voilà 25 années déjà que l'épée de la guerre européenne est suspendue sur les États européens. Et si cette guerre n'a pas encore éclaté, c'est surtout peut-être parce que la grosse finance trouve avantageux que les États s'endettent toujours de plus en plus. Mais le jour où la haute banque trouvera son compte à ce que la guerre éclate, les troupeaux humains seront lancés contre d'autres troupeaux et s'entretueront pour arranger les affaires des maîtres financiers de l'univers. Tout s'enchaîne, Tout se tient dans le système économique actuel et tout concourt à rendre inévitable la chute du système industriel et marchand sous lequel nous vivons. Sa durée n'est plus qu'une question de temps et l'on peut chiffrer déjà par année et non plus par siècle. Une affaire de temps et d'énergie d'attaque de notre part. Les paresseux ne font pas l'histoire, ils la subissent. C'est pourquoi des minorités si puissantes se constituent au sein de toutes les nations civilisées et demandent à haut cri le retour de la communauté de toutes les richesses accumulées par le travail des générations précédentes. La communalisation du sol, des mines, des usines, des maisons habitées et des moyens de transport est déjà le mot d'ordre de ces fractions imposantes. Et la répression, cette arme favorite des riches et des puissants, ne peut plus rien pour arrêter la marche triomphale des esprits révoltés. Et si des millions de travailleurs ne se mettent pas encore en branle pour arracher de vive force le sol et l'usine aux accapareurs, soyez sûrs que ce n'est pas faute d'en avoir envie. Ils attendent seulement pour le faire des événements propices, un moment comme celui qui se présenta en 1848, où ils pourront se lancer dans la démolition du régime actuel, avec l'espoir d'être soutenus par un mouvement international. Ce moment ne peut plus tarder de venir, car depuis que l'international fut écrasé par les gouvernements en 1872, surtout depuis lors, elle a fait des progrès immenses, dont ses plus ardents partisans souvent ne réalisent pas l'importance. Elle est constituée de faits, dans les idées, dans les sentiments, dans l'établissement de rapports continuels. Il est vrai que la plutocratie française, anglaise, italienne, allemande, sont autant de rivales. À tout instant, elles peuvent même amener les peuples à se ruer les uns contre les autres. Pourtant, soyez sûrs que le jour où la révolution communale et sociale se fera en France, la France retrouvera les vieilles sympathies chez les peuples du monde, y compris les peuples allemands, italiens et anglais. Et lorsque l'Allemagne, qui, entre parenthèses, est plus proche d'une révolution qu'on ne le pense, arborera le drapeau, malheureusement jacobin, de cette révolution avec toute l'ardeur de la jeunesse et de la période ascendante qu'elle traverse en ce moment, elle trouvera de l'autre côté du Rhin toutes les sympathies et tout l'appui d'un peuple qui aime les révolutionnaires audacieux et hait l'arrogance de la plutocratie. Diverses causes ont retardé jusqu'à présent l'éclosion de cette révolution inévitable. L'incertitude des rapports internationaux y est certainement pour quelque chose. Mais il y a, ce me semble, une autre cause, plus profonde, sur laquelle je voudrais attirer toute votre attention. Il se produit, de nombreux indices nous le font croire, chez les socialistes même, une transformation profonde dans les idées, semblable à celle que j'ai esquissée en début de cette conférence en parlant des sciences en général. Et l'incertitude des socialistes concernant l'organisation de la société qu'ils désirent paralyse jusqu'à un certain point leur énergie. À ses débuts, dans les années 40, le socialisme s'était présenté comme communisme, comme république unie et indivisible, comme dictature et jacobinisme gouvernemental, appliqué dans le domaine économique. Tel était l'idéal de l'époque. Religieux ou libre penseur, le socialiste d'alors était prêt à se soumettre à n'importe quel gouvernement fort, voire même à l'Empire, pourvu que ce gouvernement refît les rapports économiques à l'avantage du travailleur. Une profonde révolution s'est accomplie depuis, surtout chez les peuples latins et en Angleterre. Le communisme gouvernemental, comme le communisme théocratique, répugne aux travailleurs. Et cette répugnance fit surgir dans l'international une nouvelle conception ou doctrine, le collectivisme. Cette doctrine, à ses débuts, signifiait possession collective des instruments de travail, sans y comprendre le nécessaire pour vivre, et le droit de chaque groupement d'accepter, pour ses membres, tel mode de rétribution qu'il lui plairait, communiste ou individuel. Cependant, peu à peu, ce système se transforme en une espèce de compromis entre le communisme et la rétribution individuelle du salariat. Aujourd'hui, le collectiviste veut que tout ce qui sert à la production devienne propriété commune, mais que chacun soit néanmoins rétribué individuellement en bons de travail, selon le nombre d'heures qu'il aura donné à la production. Ces bons serviraient à acheter dans les magasins sociaux toutes les marchandises, au prix de revient qui serait aussi estimé en heures de travail. Mais si vous analysez bien cette idée, vous conviendrez que son essence, ainsi que la résume un de nos amis, se réduit à ceci. Communisme partiel dans la possession des instruments de travail et d'éducation, concurrence entre les individus et les groupes pour le pain, le logement, le vêtement, individualisme pour les œuvres de la pensée et de l'art, et assistance sociale pour les enfants, les malades et les personnes âgées. En un mot, la lutte pour les moyens d'existence mitigée par la charité. Toujours la maxime chrétienne, blessée pour guérir ensuite. Et toujours la porte ouverte à l'inquisition pour savoir si vous êtes l'homme qu'il faut laisser lutter ou bien l'homme que Monsieur l'État doit secourir. L'idée, vous le savez, est vieille. Elle date de Robert Owen. Proudhon la préconisa en 1848. Aujourd'hui, on en fait du socialisme scientifique. Il faut dire cependant que ce système semble avoir peu de prise sur l'esprit des masses. On dirait qu'elles en pressentent les inconvénients pour ne pas dire l'impossibilité. D'abord, la durée de temps donnée à un travail quelconque ne donne pas la mesure de l'utilité sociale du travail accompli. Et les théories de la valeur que l'on a voulu baser depuis Adam Smith jusqu'à Marx seulement sur le coût de la production évaluée en travail n'ont pu résoudre le problème de la valeur. Dès qu'il y a échange, la valeur d'un objet devient une quantité complexe qui dépend surtout du degré de satisfaction qu'elle apporte aux besoins, non pas de l'individu, comme le disaient autrefois certains économistes, mais de la société entière prise dans son ensemble. La valeur est un fait social. Résultat d'un échange, elle a un double aspect, le côté peine et le côté satisfaction, l'un et l'autre conçus dans leur aspect social et non individuel. D'autre part, quand on analyse les maux du régime économique actuel, on s'aperçoit, et le travailleur le sait très bien, que leur essence est dans la nécessité forcée pour le travailleur de vendre sa force de travail. N'ayant pas de quoi vivre pendant 15 jours à venir, placé par l'État dans l'impossibilité d'utiliser ses forces sans les vendre à quelqu'un, le travailleur se vend à celui qui promet de lui donner du travail. Il renonce aux bénéfices que son travail pourrait lui apporter, il abandonne au patron la part de lion des produits qu'il fera, il abdique sa liberté même, il renonce au droit de faire valoir son opinion sur l'utilité de ce qu'il va produire et sur la manière de le faire. L'accumulation du capital résulte ainsi non de sa faculté d'absorber la plus-value, mais de la nécessité dans laquelle le travailleur est placé de vendre sa force de travail, celui qui la vend étant sûr d'avance de ne pas recevoir tout ce que cette force produit, d'être lésé dans ses intérêts, de devenir l'inférieur de l'acheteur. Sans cela, le capitaliste n'aurait jamais cherché à l'acheter. Ce qui fait que pour changer ce système, il faut l'attaquer dans son essence, dans sa cause, la vente et l'achat, non dans ses effets, le capitalisme. Les travailleurs en ont bien une vague intuition et on les entend dire de plus en plus souvent qu'il n'y aura rien de fait si la révolution sociale ne commence pas par la distribution des produits, si elle ne garantit à tous ce qui est nécessaire pour vivre, c'est-à-dire le logis, la nourriture, le vêtement. Et l'on sait que cela est tout à fait possible avec les moyens puissants de production dont nous disposons. Resté salarié, le travailleur resterait esclave de celui à qui il serait obligé de vendre sa force, que cet acheteur soit un particulier ou l'État. Dans l'esprit populaire, dans cette somme de milliers d'opinions qui traverseront les cerveaux humains, on sent aussi que si l'État devait se substituer au patron dans son rôle d'acheteur et de surveillant de la force du travail, ce serait encore une tyrannie odieuse. L'homme du peuple ne raisonne pas sur des abstractions, il pense en termes concrets, et c'est pourquoi il sent que l'abstraction État revêtirait pour lui la forme de nombreux fonctionnaires, pris parmi ses camarades d'usine ou d'atelier, et il sait à quoi s'en tenir sur leurs vertus. Excellents camarades aujourd'hui, ils deviennent demain des gérants insupportables, et ils cherchent la constitution sociale qui élimine les maux actuels sans en créer de nouveaux. C'est pourquoi le collectivisme n'a jamais passionné les masses, qui reviennent toujours au communisme, mais à un communisme de plus en plus dépouillé de la théocratie et de l'autoritarisme jacobin des années 40, au communisme libre, anarchiste. Je dirais plus. En reportant continuellement ma pensée sur ce que nous avons vu pendant ce quart de siècle dans le mouvement social européen, je ne peux m'empêcher de croire que le socialisme moderne est forcément amené à faire un pas en avant vers le communisme libertaire. Et que, tant que ce pas ne sera pas fait, l'incertitude dans l'esprit populaire que je viens de signaler paralysera les efforts de la propagande socialiste. Le socialisme me semble amené, par la force même des choses, à accepter que la garantie matérielle de l'existence à tous les membres de la communauté doit être le premier acte de la révolution sociale. Mais il est aussi amené à faire encore un pas. Il est forcé de reconnaître que cette garantie doit se faire non par l'État, mais complètement en dehors de l'État et sans son intervention.
The floor. I was feeling kind of seasick, but the crowd caught up for more. The room was humming harder as the ceiling flew away. When we called out for another train, the waiter brought a tray, and so it was later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned whiter, shade of pain. Plain to see, but I wander through my playing cards and would not let him be one of 16 Vestal Virgins who were leaving for the cold. And although my eyes were open, they might have just as well been closed. And so it was later, as the miller told his tale, that a face at first just ghostly turned whiter, shade of pain.
hasn't been told his tale. That a face at first just ghostly turned a white shade of pale.
A Whiter Shade of Pale par Lucy Thomas. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Qu'une société, rentrée en possession de toutes les richesses accumulées dans son sein, puisse largement assurer l'abondance à tous, en retour de 4 ou 5 heures par jour de travail effectif et manuel dans la production, là-dessus, l'assentiment unanime de tous ceux qui ont réfléchi à cette question nous est déjà acquis. Si chacun, dès son enfance, apprenait à connaître d'où vient le pain qu'il mange, la maison qu'il habite, le livre qu'il étudie et ainsi de suite, si chacun s'accoutumait à compléter le travail de la pensée par le travail des bras dans quelques branches de la production manuelle, la société pourrait facilement s'acquitter de cette tâche, sans même tabler sur les simplifications de la production que nous réserve un avenir plus ou moins proche. Il suffit, en effet, de penser un moment au gaspillage inouï, inimaginable de force humaine qui se fait aujourd'hui pour concevoir ce qu'une société civilisée peut produire, avec quelle petite quantité de travail de chacun et quelles œuvres grandioses elle pourrait entreprendre qui lui sont aujourd'hui hors de question. Malheureusement, la métaphysique que l'on nomme l'économie politique ne s'est jamais occupée de ce qui devait constituer son essence, l'économie des forces. Sur la possibilité de la richesse dans une société communiste, outillée comme nous le sommes, il n'y a plus de doute. Là où les doutes surgissent, c'est lorsqu'il s'agit de savoir si pareille société peut exister sans que l'homme soit soumis dans tous ses actes au contrôle de l'État. S'il n'est pas nécessaire pour arriver au bien-être que les sociétés européennes sacrifient le peu de liberté personnelle qu'elles ont reconquise durant ce siècle au prix de tant de sacrifices. Une partie des socialistes affirme qu'il est impossible d'arriver à un pareil résultat sans sacrifier sa liberté sur l'autel de l'État. L'autre, à laquelle nous appartenons, prétend au contraire que c'est seulement par l'abolition de l'État, par la conquête de la liberté entière de l'individu, par la libre entente, l'association et la fédération absolument libres, que nous pourrons arriver au communisme, à la possession commune de notre héritage social et à la production en commun de toutes les richesses. Là est la question qui prime toutes les autres en ce moment, et que le socialisme est amené à résoudre sous peine de voir tous ses efforts compromis, tout son développement ultérieur paralysé. Analysons-la donc avec toute l'attention qu'elle mérite. Si chaque socialiste veut se reporter en amer dans ses souvenirs, il se rappellera sans doute la foule de préjugés qui se réveillèrent en lui lorsqu'il arriva la première fois à penser que l'abolition du système capitaliste, de l'appropriation privée du sol et des capitaux, devient une nécessité historique. La même chose se produit aujourd'hui chez celui qui entend dire pour la première fois que l'abolition de l'État, de ses lois, de son système entier de gérance, de gouvernementalisme et de centralisation devient aussi une nécessité historique, que l'abolition de l'un sans l'autre est matériellement impossible. Toute notre éducation, faite, remarquez-le bien, par l'Église et par l'État, dans l'intérêt des deux, se révolte contre cette conception. Est-elle cependant moins juste pour cela ? Et dans l'holocauste de préjugés que nous avons déjà fait pour notre émancipation, celui de l'État doit-il survivre ? Je ne vais pas faire ici la critique de l'État tant de fois déjà faite et refaite, et je suis forcée de renvoyer à une autre conférence l'analyse du rôle historique de l'État. Quelques considérations d'ordre général nous suffiront. Et d'abord, si l'homme, depuis ses origines, a toujours vécu en société, l'État n'est qu'une des formes de la vie sociale, toute récente encore pour nos sociétés européennes. L'homme vécut des milliers d'années avant que les premiers États ne fussent constitués. Grèce et Rome existèrent des siècles durant avant d'arriver aux empires macédoniens et romains, et pour nous, Européens modernes, les États ne datent que du XVIe siècle. Ce n'est qu'alors que la défaite des communes libres fut achevée, et que parvint à se constituer cette assurance mutuelle entre autorités militaires, judiciaires, seigneuriales et capitalistes, qui a pour nom État. Ce n'est qu'au XVIe siècle qu'un coup mortel fut porté aux idées d'indépendance locale, d'union et d'organisation libre, de fédération à tous les degrés entre des groupes souverains possédant toutes les fonctions aujourd'hui accaparées par l'État. Ce n'est qu'à cette époque que l'alliance entre l'Église et le pouvoir naissant de la royauté mit fin à cette organisation, basée sur le principe fédératif qui avait existé du IXe au XVe siècle et qui produisit en Europe la grande période des cités libres du Moyen-Âge, dont Sismondi et Augustin Thierry, malheureusement plus de nos jours, avaient si bien deviné le caractère. On connaît les moyens par lesquels cette association entre le seigneur, le prêtre, le marchand, le juge, le soldat et le roi assit sa domination. Ce fut par l'anéantissement de tous les contrats libres, des communautés du village, des guildes, des compagnonnages, des fraternités, des conjurations médiévales. Ce fut par la confiscation des terres de la commune et des richesses des guildes, ce fut par la prohibition absolue et féroce de toutes sortes d'ententes libres entre hommes, ce fut par le massacre, la roue, le gibet, le glaive et le feu que l'Église et l'État établirent leur domination, qu'ils arrivèrent à régner désormais sur des agglomérations incohérentes de sujets, n'ayant plus aucune union directe entre eux.
Je serai parti, la gare Dakar Bamako, mon petit, y'a pas de problème, tout va bien. Aujourd'hui je me marie, j'ai confiance à Moul Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie, y'a pas de problème, j'aime au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris, ascenseur pour le ghetto, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il au paradis, il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali, quelle heure est-il. Bien cadré, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat numéro 39. Y attend. À l'état civil, déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Cinéma, le Paris. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il au Paris, cinéma. Il est minuit à Tokyo, il est 5h au Mali. Quelle heure est-il au Paris, cinéma. Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème? Où est la frontière? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris.
Thank you.
Radio Libertaire, nous venons d'écouter Amadou et Myriam avec Manu Chao dans Ségéna Sénégal Fast Food. Et juste avant, nous avons écouté Kropotkin. Nous en sommes désormais à la partie 15 que nous venons d'écouter et nous allons continuer.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Aujourd'hui seulement, depuis 20 ans à peine, nous commençons à reconquérir, par la lutte, par la révolte, quelques amorces du droit d'association, qui fut librement pratiqué par les artisans et les cultivateurs du sol à travers tout le Moyen-Âge. Et quelle est la tendance qui domine déjà dans la vie des nations civilisées? N'est-ce pas celle de s'unir, de s'associer, de se constituer en mille et mille sociétés libres pour la satisfaction de tous les besoins multiples de l'homme civilisé? L'Europe se couvre en effet d'associations volontaires pour l'étude, pour l'instruction, pour l'industrie et le commerce, pour la science, l'art et la littérature, pour l'exploitation et pour la résistance à l'exploitation, pour l'amusement et pour le travail sérieux, pour la jouissance et pour l'abnégation, pour tout ce qui fait la vie de l'être actif et pensant. Nous voyons surgir ces sociétés dans tous les coins et recoins de chacun des domaines, politique, économique, artistique, intellectuel. Les unes ne vivent que ce que vivent les roses, d'autres se maintiennent déjà depuis des décennies, et toutes cherchent, en maintenant l'indépendance de chaque groupe, cercle, branche ou section, à se fédérer, à s'unir, par-dessus les frontières, aussi bien que dans chaque nation, à couvrir toute la vie du civilisé d'un réseau dont les mailles s'entrecroisent et s'enchevêtrent. Leur nombre se chiffre déjà par dizaines de mille. Elles embrassent des millions d'adhérents. Mais y a-t-il 50 ans que l'État et l'Église commencèrent à en tolérer quelques-unes à peine? Partout, ces sociétés empiètent déjà sur les fonctions de l'État et cherchent à substituer l'action libre des volontaires à celle de l'État centralisé. En Angleterre, on voit surgir des compagnies d'assurance contre le vol, des sociétés de volontaires pour la défense du territoire, des sociétés pour la défense des côtes, que l'État cherche évidemment à placer sous sa gouverne, et dont il veut faire ses instruments de domination, mais dont l'idée mère fut de se passer de l'État. N'étaient l'Église et l'État, la société libre aurait déjà conquis pour l'œuvre volontaire l'immense domaine de l'éducation. Et malgré toutes les difficultés, elles commencent à envahir ce domaine, et elles y font déjà sentir leur influence. Et lorsqu'on constate les progrès qui s'accomplissent dans cette direction, malgré et contre l'État, qui tient à garder la suprématie qu'il avait conquise pendant ces 3 derniers siècles, lorsque l'on voit comment la société volontaire envahit tout et n'est arrêtée dans ses développements que par la force de l'État, on est forcé de reconnaître une puissante tendance, une force latente de la société moderne. Et on a droit de se poser cette question. Si d'ici 5, 10 ou 20 ans, peu importe, les travailleurs révoltés réussissaient à briser la dite société d'assurance mutuelle entre propriétaires, banquiers, prêtres, juges et soldats, si le peuple devient maître de ses destinées pour quelques mois et met la main sur les richesses qu'il a créées et qui lui appartiennent de droit, cherchera-t-il vraiment à reconstituer à nouveau cette pieuvre, l'État ? Ou bien ne cherchera-t-il pas plutôt à s'organiser du simple au composé, selon l'accord mutuel et les besoins infiniment variés et toujours changeants de chaque localité, pour s'assurer la possession de ses richesses, pour se garantir mutuellement la vie et produire ce qui sera trouvé nécessaire à la vie? Suivra-t-il la tendance dominante du siècle ou bien marchera-t-il contre cette tendance et cherchera-t-il à reconstituer l'autorité démolie? L'homme éduqué, le civilisé, comme disait Fourier avec mépris, frémit à l'idée que la société pourrait un jour se trouver sans juge, sans gendarme, sans geôlier. Mais franchement, en avez-vous autant besoin qu'on vous l'a dit dans les bouquins, bouquins écrits, remarquez-le bien, par des savants qui généralement connaissent bien ce qui a été écrit par d'autres avant eux, mais pour la plupart ignorent absolument le peuple et sa vie quotidienne? Si nous pouvons nous promener sans crainte, non seulement dans les rues de Paris qui fourmillent de policiers, mais surtout dans les chemins ruraux où l'on ne rencontre que de rares passants, Est-ce à la police que nous devons cette sécurité? Ou bien plutôt à l'absence de gens qui tiennent à nous assommer ou à nous dévaliser? Je ne parle évidemment pas de celui qui se trouve porteur de millions. Celui-là, un procès récent nous l'apprend, évite dévaliser, de préférence dans les endroits où il y a autant de policiers que de lanternes. Non, je parle de l'homme qui craint pour sa vie et non pour sa bourse, remplie d'écus mal acquis. Ces craintes sont-elles réelles? D'ailleurs, l'expérience n'a-t-elle pas démontré tout récemment que Jacques l'Éventreur faisait ses exploits sous les yeux de la police de Londres, et elle est encore une des plus actives, et qu'il ne cessa ses meurtres que lorsque la population elle-même de Whitechapel se mit à lui faire la chasse? Et dans nos rapports quotidiens avec les concitoyens, pensez-vous que ce soit réellement les juges, les geôliers et les gendarmes qui empêchent les actes antisociaux de se multiplier? Le juge, toujours féroce puisque maniaque de la loi, le délateur, le mouchard, le policier, tout ce monde interlope qui vivote autour des bâtiments, nommé par la dérision « palais de justice », ne déverse-t-il pas dans la société la démoralisation à plein flot? Lisez les procès, jetez un regard derrière la coulisse, poussez l'analyse plus loin que la façade extérieure, et vous en sortez écœuré. La prison qui tue dans l'homme toute volonté et toute force de caractère, qui renferme dans ses murs plus de vices qu'on n'en rencontre sur aucun autre point du globe, n'a-t-elle pas toujours été l'université du crime? La cour d'un tribunal n'est-elle pas une école de férocité? Et ainsi de suite. On nous dit que, quand nous demandons l'abolition de l'État et de tous ses organes, nous rêvons d'une société composée d'hommes meilleurs qu'ils ne le sont en réalité. Non, mille fois non. Tout ce que nous demandons, c'est qu'on ne rende pas les hommes pires qu'ils le sont par de pareilles institutions. Un jour, un légiste allemand de grand renom, Tering, voulut résumer l'œuvre scientifique de sa vie et rédiger un traité dans lequel il se proposait d'analyser les facteurs qui maintiennent dans la société la vie sociale. Le but dans le droit, Der Zweck im Rechte, tel est le titre de cet ouvrage qui jouit d'une réputation bien méritée. Il fit un plan élaboré de ce traité et discuta avec beaucoup d'érudition les deux facteurs coercitifs, le salariat et les autres formes de coercition inscrites dans la loi. À la fin de son ouvrage, il réserva deux paragraphes pour mentionner les deux facteurs non coercitifs auxquels il n'attachait, comme de raison chez un juriste, qu'une médiocre importance, le sentiment du devoir et le sentiment de sympathie. Mais qu'arrivait-il? À mesure qu'il analysait les facteurs coercitifs, il constatait leur insuffisance. Il leur consacra un volume entier d'analyses serrées et le résultat fut d'amoindrir leur importance. Quand il commença les deux derniers paragraphes, quand il se mit à réfléchir sur les facteurs non coercitifs de la société, il s'aperçut de leur importance immense, prépondérante. Il se vit forcé d'écrire un second volume, deux fois plus gros que le premier, sur ces deux facteurs, la restreinte volontaire et l'appui mutuel. Et encore, n'analysa-t-il qu'une partie infime de ces derniers, ce qui résulte des sympathies personnelles et toucha à peine à la libre entente qui résulte des institutions sociales. Eh bien, cessez de répéter les formules apprises à l'école, pensez à ces idées, et il vous arrivera la même chose qui est arrivée à Tering. Vous reconnaîtrez l'importance minime de la coercition comparée aux facteurs de l'assentiment volontaire dans la société. D'autre part, si, suivant un conseil bien vieux donné par Bentham, vous vous mettez à réfléchir aux conséquences funestes, directes et surtout indirectes, de la coercition légale, alors, comme Tolstoï, comme nous, vous prendrez en haine cet emploi de la force et vous arriverez à vous dire que la société possède mille autres moyens bien plus efficaces d'empêcher les actes antisociaux. Si elle les néglige aujourd'hui, c'est parce que son éducation, faite par l'Église et par l'État, sa couardise, sa paresse d'esprit, l'empêche de voir clair dans ces questions. Quand un enfant a fait une peccadille, il est si commode de le punir. Cela coupe court à toute discussion. Il est si facile, n'est-ce pas, de faire guillotiner un homme. Surtout quand on a un déhiblé payé à l'année. Ça nous dispense de penser aux causes des crimes.
Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir, Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, ça cafard. Anne, ma sœur Anne, en écrivant ton journal du fond de ton placard, Anne, ma sœur Anne, c'est qu'on n'oublierait jamais mes mauvaises mémoires. Elle ressort de sa tanière, la nazie nostalgie. Croix gamme et bottes à clous, oui, toute la panoplie. Elle a pignon sur rue, des adeptes imparties. La voilà revenue, historique, historique. Si je te disais ce que j'entends, Anne, ma sœur Anne, les mêmes discours, les mêmes slogans, les mêmes aboiements, Anne, ma sœur Anne, j'aurais tant voulu te dire, petite fille Martine, Anne, ma sœur Anne, tranquille, elle reviendra plus la vermine, mais beaucoup d'indifférence, de patience malvenue pour ces anciens damnés au goût de déjà vu, beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières pour cette nazie nostalgique qui ressort de sa tanière. Anne, ma sœur Anne, si je te disais ce que je vois venir, Anne, ma sœur Anne, j'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, ça
Libertaire 89.4 sur Paris et la région parisienne et partout en monde sur www.radio-libertaire.org. Vous écoutez un rayon de soleil.
L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkine. On dit souvent que les anarchistes vivent dans un monde de rêves d'avenir et ne voient pas les choses du présent. Nous ne les voyons que trop, peut-être, sous leurs vraies couleurs. Et c'est ce qui nous fait porter la hache dans cette forêt de préjugés autoritaires qui nous obsède. Loin de vivre dans un monde de visions et d'imaginer les hommes meilleurs qu'ils ne sont, nous les voyons tels qu'ils sont. Et c'est pourquoi nous affirmons que le meilleur des hommes est rendu essentiellement mauvais par l'exercice de l'autorité, et que la théorie de la pondération des pouvoirs et du contrôle des autorités est une formule hypocrite, fabriqué par les détenteurs du pouvoir pour faire croire au peuple souverain qu'il méprise que c'est lui qui gouverne. C'est parce que nous connaissons les hommes que nous disons à ceux qui s'imaginent que sans eux les hommes s'entre-dévoreraient Vous raisonnez comme ce roi qui, renvoyé à la frontière, s'écriait « Que vont devenir mes pauvres sujets sans moi ?» Ah, si les hommes étaient ces êtres supérieurs dont les utopistes de l'autorité aiment à nous parler, si nous pouvions fermer les yeux sur la réalité et vivre comme eux dans un monde d'illusions sur la supériorité de ceux qui se croient appelés au pouvoir, peut-être ferions-nous comme eux. Nous croirions aux vertus des gouvernants. Avec des maîtres vertueux, quel danger pouvait offrir l'esclavage? Vous souvenez-vous du maître d'esclaves dont on nous a tant parlé il y a 30 ans à peine? N'était-il pas censé prendre des soins paternels de ses esclaves? Lui seul pouvait empêcher ses paresseux, ses nonchalants, ses enfants imprévoyants de mourir de faim. Lui, écraser ses esclaves sous le fardeau du travail ou les mutiler sous les coups? Comment l'aurait-il fait, puisque son intérêt direct était de les bien nourrir, de les bien soigner et de les traiter comme ses enfants? Et puis, la loi ne veillait-elle pas à punir les moindres écarts d'un maître qui aurait oublié ses devoirs? Ah, que de fois on nous l'a dit, mais la réalité était telle que, revenu de son voyage au Brésil, Charles Darwin fut hanté toute sa vie par les cris d'angoisse d'esclaves mutilés, par les sanglots des femmes gémissant, leurs doigts serrés dans les poussettes. Si les messieurs placés au pouvoir étaient réellement ces êtres intelligents et dévoués à la cause publique, dont les panégyristes de l'autorité aiment à nous entretenir, quelle joie utopiste, gouvernementale et patronale n'arriverait-on pas à construire? Le patron ne serait jamais le tyran de l'ouvrier, il en serait le père. L'usine serait un lieu de délices, et jamais des populations de travailleurs ne seraient vouées au dépérissement physique. L'État n'empoisonnerait pas ses ouvriers par la fabrication des allumettes à phosphore blanc, qu'il est si facile de remplacer par le phosphore rouge. Le juge n'aurait pas la férocité de condamner la femme et les enfants de celui qui l'envoie en prison à souffrir des années de faim et de misère, et à mourir un jour d'anémie. Jamais un procureur ne demanderait la tête d'un accusé pour l'unique plaisir de faire valoir ses talents oratoires, et nulle part ne se trouverait un geôlier ni un déhiblé pour exécuter les sentences que les juges n'ont pas le courage d'exécuter eux-mêmes. Que dis-je, on n'aurait jamais assez de Plutarque pour raconter les vertus des députés, ayant l'échec en horreur. Biribi deviendrait une pépinière austère de vertus, et les armées permanentes seraient la joie des citoyens, puisque les soldats ne prendraient le fusil que pour parader devant les bonnes d'enfants et pour porter les bouquets de fleurs à la pointe de leurs baïonnettes. Oh, la belle utopie, le beau rêve de Noël que l'on fait dès qu'on admet que les gouvernants représentent une caste supérieure connaissant peu ou point les faiblesses des simples mortels. Il suffirait alors de les faire contrôler hiérarchiquement les uns par les autres, de leur permettre d'échanger tout au plus une cinquantaine de papiers entre divers administrateurs quand le vent abat un arbre sur une route nationale. Ou au besoin, on les fait apprécier par ces mêmes masses de mortels qui, doués de toutes les faiblesses dans leurs rapports mutuels, deviennent la sagesse même quand il s'agit de choisir des maîtres. Toute la science du gouvernement, imaginée par les gouvernants eux-mêmes, est un but de ces utopies. Mais nous connaissons trop les hommes pour en rêver de pareil. Nous n'avons pas de poids et de mesure pour les vertus des gouvernés et celles des gouvernants. Nous savons que nous-mêmes ne sommes pas sans défaut et que les meilleurs d'entre nous seraient vite corrompus par l'exercice du pouvoir. Nous prenons les hommes pour ce qu'ils sont, et c'est pour cela que nous haïssons le gouvernement de l'homme par l'homme et que nous travaillons de toutes nos forces, pas assez peut-être, à y mettre fin. Mais ce n'est pas assez de démolir. Il faut aussi savoir bâtir, et c'est faute d'y avoir pensé que le peuple fut toujours leurré dans toutes ses révolutions. Après avoir démoli, il abandonnait le soin de reconstruire aux bourgeois qui, eux, possédaient une conception plus ou moins nette de ce qu'ils voulaient réaliser et qui reconstruisaient alors l'autorité en leur faveur. C'est pourquoi l'anarchie, lorsqu'elle travaille à démolir l'autorité sous tous ses aspects, lorsqu'elle demande l'abrogation des lois et l'abolition du mécanisme qui sert à les imposer, lorsqu'elle refuse toute organisation hiérarchique et prêche la libre entente, travaille en même temps à maintenir et à élargir le noyau précieux de coutumes de sociabilité sans lesquelles aucune société humaine ou animale ne saurait résister. Seulement, au lieu de demander le maintien de ses coutumes sociales à l'autorité de quelques-uns, elle le demande à l'action continue de tous. Ces institutions et les coutumes communistes s'imposent à la société, non seulement comme une solution des difficultés économiques, mais aussi pour maintenir et développer les coutumes sociables, qui mettent les hommes en contact les uns avec les autres, établissant entre eux des rapports qui fassent de l'intérêt de chacun l'intérêt de tous, et en les unissant, au lieu de les diviser. Quand nous nous demandons, en effet, par quels moyens un certain niveau moral peut être maintenu dans une société humaine ou animale, nous n'en découvrons que trois. La répression des actes antisociaux, l'enseignement moral et la pratique même de l'appui mutuel. Et puisque tous les trois ont été pratiqués, nous pouvons les juger à leurs œuvres. Quant à l'impuissance de la répression, elle est suffisamment démontrée par le désarroi de la société actuelle et par la nécessité même de la révolution que nous désirons ou que nous sentons tous inévitable. Dans le domaine économique, la coercition nous a conduits au bagne industriel. Dans le domaine politique, à l'État, c'est-à-dire à la destruction de tous les liens qui existaient jadis entre citoyens. Les Jacobins de 1793 brisèrent ceux-mêmes qui avaient résisté à l'État monarchique, afin que la nation devienne une masse incohérente de sujets, soumis sous tous les rapports à une autorité centrale. Non seulement le régime de coercition a créé les maux du système économique, politique et social actuel, mais il a fait preuve d'impuissance absolue pour relever le niveau moral des sociétés. Il n'a même pas su le maintenir au niveau qu'elles avaient atteint. Car si une fée bienfaisante pouvait révéler aux yeux de tous les crimes qui se commettent chaque jour, à chaque instant, dans une société civilisée, sous le couvert de l'inconnu, des hautes protections et de la loi elle-même, la société en frémirait. Les plus grands crimes politiques, comme le 2 décembre ou la Semaine sanglante, ne sont jamais atteints, et comme disait le poète, on frappe les petits mécréants pour la satisfaction des grands. Plus que cela, alors même que l'autorité se charge de moraliser la société pour le châtiment des criminels, elle ne fait qu'accumuler de nouveaux crimes. Pratiquée depuis des siècles, la répression a si mal réussi que nous sommes dans une impasse dont nous ne pourrons sortir qu'en portant la torche et la hache dans les institutions de notre passé autoritaire.
Triste contemplando la ciudad, porque te vas.
Perché te vas, Jeannette, par Sarah-Jeanne Ziegler et Justine Jérémy. Vous écoutez Radio Libertaire 89.4 sur Paris et la région parisienne et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. L'émission, c'est Un rayon de soleil. Un rayon de soleil, pourquoi ? Ben parce que c'est l'émission du sud de la France. Et je vous propose tout de suite d'aller faire un saut à Cassis pour écouter du jazz. Nous allons écouter un groupe qui s'appelle le Blackbird Memories Jazz Quintet et nous allons écouter un bout de son extrait de concert à Cassis.
Thank you. you wear your hat, the way you sip your tea, the memory, all of that. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away. Oh, they can't take that away. They can't take that away from
Voilà, c'était le Blackbird Memories Jazz Quintet. C'était un extrait du concert qu'ils ont donné à Cassis le 10 août 2014. Ah oui, Cassis, le bord de la mer, les falaises en vue derrière, un endroit sublime. Bon, vous écoutiez Un rayon de soleil, c'est l'émission du sud de la France, de Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, sans lieu, sans maître et sans publicité. 89.4, c'est la fréquence à Paris. C'est aussi, vous pouvez aussi nous retrouver en DAB+, c'est-à-dire en radio numérique terrestre dans Paris et la région parisienne, et partout dans le monde sur www.radio-libertaire.org. Première partie de l'émission, nous avons écouté Kropotkin, Pierre Kropotkin. Et il nous reste quelques chapitres à écouter de Pierre Kropotkin que nous écouterons dans une prochaine émission. Donc soyez attentifs, et si vous les avez loupés, ben, n'hésitez pas à réécouter sur les archives de l'émission, soit par l'internet de la station www.radio-libertaire.org, soit par celui de l'émission Un rayon de soleil, http://rl.mediterranee.free.fr. Si vous voulez pas nous passer un message, vous pouvez le faire sur rl.mediterranee@free.fr. On vous souhaite un bon appétit et une bonne journée sur l'écoute de Radio Libertaire.
Hola, mio bella Nisa, regina degli flui, itio vieni da Ulisa. Io canterai tu giù, canterai lì in montagna, l'uso tramite cor, l'itio bel di campagna, l'uso man sull'erdo, tu giù io canterai, sotto l'itio tunella, la più marta giù. Dio si è pur, e tu giù griderai, è la mia ritornella, viva, viva.